Merci à tous d'être là. Donc, on va parler des androïdes reptiles de moutons électriques. Alors, pour ce cours, je suis parti d'une des dernières éditions. C'est l'édition J'ai lu, qui a une excellente traduction de Sébastien Guillot et très jolie postface d'Étienne Barillet, qui est dans les murs, là. Je vous la conseille, elle est vraiment très très bien. La postface est éclairante et la traduction est très bien. Et déjà, en fait, tout le problème commence sur la simple couverture. J'ai lu a eu l'élégance de rappeler le vrai titre, les androïdes reptiles de moutons électriques. Ils l'ont enchâssé dans le titre qui a tendance à étouffer, qui est Blade Runner. Donc nous, ce dont on va parler, c'est bien des androïdes reptiles de moutons électriques. De la même façon, on ne parlera pas de réplicants, mais d'androïdes ou de robots. Alors, la première chose qui est intéressante, c'est l'analyse du titre, les androïdes reptiles de moutons électriques. C'est pas les androïdes rêvent-ils de robots ou de moutons. C'est-à-dire que si les hommes, pour dormir, rêvent de moutons, les androïdes ne rêvent pas de moutons. Ils rêvent de moutons électriques. Donc, rien que le titre installe une sorte de parallélisme entre le vivant et la machine. C'est-à-dire recréer le même équilibre. Vous avez les androïdes qui rêveraient de moutons électriques, tout comme avant, dans l'ordre du vivant, vous avez les hommes rêvent de moutons. De la même façon, depuis Descartes, non pas le détective, mais le philosophe, bien sûr on parlera de l'analogie, depuis Descartes, on estime que dans l'ordre du vivant, les hommes seraient supérieurs aux animaux. Et de la même façon, dans le roman, il est dit que les androïdes sont supérieurs aux espèces. Tiens, si jamais, il y avait un androïde parmi nous, test qui a été inventé par Descartes en 1600 et quelques, s'il y avait un androïde parmi nous, c'est-à-dire parfaite ressemblance d'un humain, on va corser la difficulté, qui lui-même serait convaincu d'être un être humain, qui aurait une mémoire artificielle lui donnant l'impression qu'il a effectivement vécu 18, 25, 35, 50 ans, comment, sans sortir d'ici et en ne se comportant pas comme des bouchers, saurions-nous qu'il y a des humains et un androïde? Comment ferions-nous, nous, ici, pour identifier un androïde? Car il y a une solution. Et cette solution, elle a été inventée par Descartes, c'est-à-dire à une époque où on n'avait même pas inventé le presse-purée. Comment ? Des idées ?
Ouais, ça dépend de la définition d'androïde, en quelque sorte aussi.
Non, on va le faire simple. Il y a des humains, selon la plus pure tradition conçue, selon les normes classiques de l'humanité, et un androïde. Comment va-t-on finir par l'identifier? Oui.
Il y a une série de questions qui existent. Il y a un test comme ça qui existe.
Alors, bien sûr, il y a le test Voigtkampf, on va en parler, mais entre nous, on ne connaît même pas Voigtkampf. Descartes ne connaissait pas le test de Voigtkampf. Par contre, Descartes, il a peut-être inspiré Turing. En tout cas, ils ont marché sur le même sentier. Comment?
Je ne sais pas ce qu'il est capable de penser.
C'est important d'imaginer. C'est Noël, vous êtes chez vous, tout se passe bien, tout à coup le réveillon dérape, question légitime, surtout au bout de la troisième coupe de champagne, y aurait-il pas un androïde parmi nous? Oui.
Peut-être une question simple, à savoir choisir entre quelqu'un de sa famille et deux inconnus qui on doit sauver.
Mais l'androïde, lui, pense qu'il est un humain, il est en train de rire, puis il est en train de se dire ses conférenciers, vraiment, il tire à la ligne, histoire de boucler l'horreur. Lui-même, il est là, il écoute, il est en train de réfléchir, tiens, il y a peut-être un androïde, comment on ferait? Donc lui-même, s'il y avait quelqu'un de proche qui serait sacrifiable ou pas, se poserait des questions humaines, puisqu'il pense être un humain.
Raconter ses rêves.
Oh. C'est vrai, si on écoute les rêves des gens, c'est même pas si
ils sont humains, mais il faut pas. Un androïde n'aurait pas forcément.
Bah en fait, d'après Dick, il rêve et il pourrait rêver. S'il avait Descartes en pas dans les passions de l'âme, si vous aviez des images qui apparaîtraient la nuit, vous pourriez les fabriquer, ce sont des fictions de toute façon. Donc si c'est pour fabriquer des fictions, vous pouvez imaginer qu'un androïde rêve. D'ailleurs, on dit qu'il rêve. Je ne sais pas s'il rêve de mouton électrique, mais il rêve de liberté, il rêve d'évasion, il rêve d'empathie, il rêve. Bon, il faudra qu'on y réponde quand même avant la fin de l'heure. Hein. Mais continuons. Donc, le titre déjà est très parlant. Il y a deux ordres dans le roman, les machines, les vivants. Et au sein de ces deux ordres, on rétablit la hiérarchie. Il y a les humains, les animaux, les androïdes et les robots à apparence de vivant. Bon. Mais ce qui est intéressant par rapport à la tradition qui veut que les animaux sont inférieurs aux humains, dans le roman, l'enjeu qui n'apparaît absolument pas dans le film, c'est un vrai mouton. Parce que Descartes, le détective, le tueur d'androïdes, Descartes veut un vrai mouton. Et d'ailleurs, il est toujours en train de consulter son catalogue Sidney, et un vrai mouton coûte très cher. En fait, on comprend bien qu'il a eu un vrai mouton jadis, il veut récupérer un vrai mouton. Donc on en arrive à les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, mais les humains rêvent de moutons, pas pour dormir, mais pour vivre. Il a besoin d'un mouton, et c'est ce qui va le conduire à affronter 6 androïdes. Bon. Alors, ce qui est très intéressant au sujet des vivants, des machines, etc., c'est ce que dit Dick dans un article de 1975 qui s'appelle « L'homme, l'androïde et la machine ». Et dans cet article, qui a donc été écrit une dizaine d'années après le roman, il a des teintes très dures, extrêmement précis, secs. L'androïde est négatif pour Dick. C'est une apparence trompeuse. Il l'appelle chose, thing, de la même façon que les policiers dans le roman les appellent des... Attendez, ils les appellent... Alors en français, hein, la traduction française, c'est des andros. Vous voyez, c'est méprisant. Donc, contrairement au film, les automates du roman sont perçus comme étant trompeurs. On n'attend rien d'eux, pas de romantisme, pas d'affection, pas d'éventuelle entente un jour entre humains et machines. Les androïdes, je dis bien dans un texte théorique, pas dans la fiction, hein, théorique de Dick de 75, ils sont présentés comme des simulacres et des simulacres trompeurs. Bon. De la même façon, dans le roman, il est bien dit que les androïdes manquent de réaction empathique et Dick revient à la charge avec les animaux et dit d'ailleurs, si l'on confie un animal vivant à un androïde, l'animal mourrait parce qu'il n'aurait pas d'affection. Donc c'est plus qu'un titre, hein, c'est une sorte de chassé-croisé, le mouton vivant, le mouton électrique, l'androïde, l'andro, le manque d'empathie, l'être humain, c'est tout un chassé-croisé qui fait le tour du roman et qui renvoie, ne serait-ce que par le nom du détective R. Descartes, Eric Descartes, à René Descartes, le philosophe cette fois-ci, dans un traité qui s'appelle « Le discours de la méthode » et une lettre très importante du 24 novembre 1646, qui est la lettre au marquis de Newcastle. Alors, là, on revient Descartes le premier. Dans le discours de la méthode et dans la lettre au marquis de Newcastle, Descartes se pose la question suivante. Je vous rappelle qu'on est en 1646, hein, c'est facile. Descartes dit « Imaginons que nous ayons la technique pour fabriquer des automates à la parfaite ressemblance des êtres vivants. On pourrait donc fabriquer des animaux qui ressembleraient à des animaux et des automates, des androïdes, Descartes utilise le terme « automate » pour ressembler à des êtres humains. Question que pose Descartes le philosophe, est-ce qu'on pourrait distinguer les vivants des machines ? La réponse de Descartes, elle est très intéressante, parce qu'il dit pour les animaux, non. Un automate de mouton, pas l'exemple que prend Descartes, mais ça revient au même, il prend le perroquet, lui, parce qu'il parle. Bon, on va prendre le perroquet. Un perroquet vivant et un perroquet machine, on ne pourrait pas les distinguer. D'autant plus que le perroquet vivant parle, certes, mais ne dit rien, tandis qu'un muet ne parle pas, mais peut dire des choses. On est donc dans la simple fonction pour le perroquet vivant. Donc Descartes dit non seulement on ne pourrait pas distinguer un animal d'un automate à la ressemblance d'un animal, mais on n'en aurait rien à faire, parce que ça reviendrait au même. Par rapport au roman, c'est très intéressant. C'est-à-dire que entre un animal-machine et un animal, il n'y a pas de différence. Et finalement, même si les animaux, pour Descartes, ont des sentiments et des affections, tout ça reviendrait au même. Donc la discussion se concentre sur les humains. Et Descartes dit, on pourrait distinguer des automates des vivants, ce qui va donc nous permettre de régler ce problème épineux. Je ne sais pas, mais depuis tout à l'heure, moi, je suis mal à l'aise à l'idée qu'il peut y avoir un automate parmi nous. En établissant deux critères. 1646, hein, quand même. Descartes dit la chose suivante. Pour tout ce qui relève de la partition de l'automate. Il ne parle pas de programmation, il n'a pas le mot, il suit sa partition. Les automates seraient plus performants, le terme est moderne, c'est ce qu'il utilise, seraient plus efficaces que les êtres humains. Je reprends, pour toute la partie qui relèverait, on va dire, de la programmation, les automates seraient plus efficaces que les êtres humains. Donc, premier critère. Et ça ne suffit pas, il y a des gens qui sont doués, qui vont très vite, qui répondent très vite, etc. Donc en croisant un deuxième critère qui est le suivant, dans l'improvisation, les humains seraient plus efficaces que les automates. En croisant les deux critères, rapidité dans la programmation et lenteur, voire activité inopérante dans l'improvisation, on arriverait à identifier des automates. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fascine. 1646. Descartes a les règles de résolution d'une science et d'une technique qui n'existent pas. Vous vous rendez compte? Et il anticipe d'ailleurs beaucoup Turing. Hein. Justement, c'est par observation du comportement. Mais justement, ce comportement, il doit être observé par un être humain. Il ne peut pas être observé par une machine. Et Descartes à un certain moment, Descartes fait une sorte de parenthèse que l'on retrouve dans le roman et qui est sur ce qu'il appelle les esprits simples. Comme dit Descartes, les plus hébétés. C'est-à-dire ce qu'on appellera sans connotation négative, les idiots. Je reprends le terme de la traduction de Dick. Les spéciaux, comme il est dit dans Les moutons électriques. Descartes dit, même le plus hébété des hommes serait plus performant que le plus performant des automates, tout simplement parce qu'il pense. S'il pense bien, il pense. S'il pense mal, il pense. S'il pense qu'il ne pense pas, il continue de penser. Et donc il y a une réhabilitation du défaut d'intelligence par Descartes au nom de la pensée. Même si vous pensez peu, même si vous pensez pas, ou que vous pensez que vous ne pensez pas, vous le pensez. Autrement dit, il y a une supériorité de nature de l'être humain sur l'automate, c'est sa fonction de penser. Or, dans les moutons électriques, les androïdes font partie des moutons électriques, les androïdes pensent. Le problème ne vient pas de la pensée, il vient du manque d'affection, il vient de l'empathie. Et cette empathie, quelqu'un l'a dit, elle est mesurée par un test dans le roman qui s'appelle le test de Voigt-Kampff. Test mis au point par Voigt. Là aussi, très intéressant, dans le roman, le test est mis au point par un certain Voigt, puis modifié et amélioré par Kampff 3 ans après, à l'Institut soviétique Pavlov. C'est pas du tout innocent. Et ce test revient à mesurer le temps de réponse ou le temps de latence, c'est-à-dire le silence ou la difficulté à répondre, en mesurant un certain nombre de critères physiques, qui sont par exemple la taille de la rétine, la respiration, ce genre de choses. Voilà. Et donc c'est en posant un certain nombre de questions, qui apparentent d'ailleurs le test de Voigt-Kampff à celui de Turing et à celui de Descartes, qu'on peut savoir si un sujet est un humain ou un automate. Les questions, je ne sais pas si vous en souvenez, sont des questions extrêmement violentes qui mettent en cause la survie d'enfants, le traitement d'animaux, etc. Donc des questions qui sont censées choquer, bouleverser. Si un automate ou un androïde n'est pas choqué, ou qu'il est modérément choqué, ou qu'il parvient à imiter le trouble, bah, par un certain nombre de questions croisées, on arrive à établir une constante qui fait qu'on sait si un automate ou pas. Bon. Donc c'est bien la mesure d'empathie qui permet de distinguer un humain d'un automate. Et là aussi, ce qui est très intéressant dans le roman, c'est ce qu'il appelle les spéciaux, c'est-à-dire des humains dont les facultés intellectuelles ont été amoindries par de la poussière radioactive qui tombe tout le temps, c'est ça, voilà. Donc ces malheureux spéciaux dont Isidore, qui est le personnage que l'on retrouve, Isidore est un spécial, donc c'est un idiot. Alors, là aussi, c'est intéressant parce qu'il s'appelle Isidore, je pense, en référence à une autre œuvre de Philippe K. Dick, qui est Confession d'un barjot, où Isidore de Séville est un philosophe du Moyen-Âge qui a rassemblé la plus minuscule encyclopédie qui soit. Donc, à mon avis, les deux Isidore se renvoient. Et Isidore, dans le roman, a deux particularités, outre le fait qu'il pense mal ou peu, le pauvre, c'est que, un, il arrive à distinguer la vie à travers des portes closes. Quand un appartement est fermé, il sait ou il sent s'il y a de la vie. Et autre élément, tiens, il travaille pour un vétérinaire. C'est-à-dire toujours cet équilibre entre homme-machine, machine-automate, animaux imités, et dans le vivant, homme et animaux. Bon. Donc c'est le test Voight-Kampff qui permet de savoir s'il y a des humains ou des automates. Autre appareil intéressant dans le roman, c'est la boîte Penfield. Alors la boîte Penfield, c'est un appareil qui n'est pas trop décrit, qui permet aux humains, dans le roman, notamment à l'épouse de Descartes, parce que dans le roman, toute la partie sentimentale avec l'androïde femme n'existe pas. Hein. Dommage pour le romantisme, il n'y est pas du tout.
C'est une autre histoire, en fait.
Pardon ?
C'est presque une autre histoire.
C'est tout à fait, oui, à un moment. C'est tout à fait ça, une narration enchâssée dans la narration. On pense que ça va monter très haut parce qu'on s'y attache et poum, elle disparaît après, on n'en parle plus. Tout à fait. Donc dans la boîte Penfield, c'est très curieux. C'est un appareil qui permet aux gens de ressentir des émotions. Donc par exemple, vous avez, j'en ai noté deux. Vous avez l'opération 481, conscience de multiples possibilités qui s'ouvre à moi. Ça ressemble un peu au Yiking du maître du Haut-Château. J'aime beaucoup la 888 qui est dans le roman. C'est envie de regarder la télé, peu importe ce qu'elle diffuse. Vous avez une fonction, j'ai pas envie de regarder la télé, mais je vais mettre ça, du coup j'aurai envie de regarder la télé. Bah, je sais pas, mais c'est fou, mais moi ça m'embête quand même. C'est-à-dire que les humains, le roman est quand même basé sur le fait que c'est l'empathie qui distingue les humains des machines. Et là, badaboum, dans le roman, et plusieurs fois, on se rend compte que les humains ont besoin d'une machine pour ressentir des émotions, bref, pour ressentir de l'empathie, notamment ce qui distingue les humains des machines. Autrement dit, dans le roman, vous avez des androïdes qui s'interrogent, mais pas plus que ça, hein, c'est pas comme dans le film, hein, qui s'interrogent sur l'empathie, ça les questionne, et vous avez des humains, eux, qui doivent se provoquer eux-mêmes des émotions et de l'empathie pour vivre pleinement en tant qu'être humain. Quand même embêtant, côté frontières, elles deviennent un peu floues quand même. Bon. À quoi s'ajoute le mercérisme ? Alors, le mercérisme est une sorte de religion dans les moutons électriques, qui relève un peu du New Age, d'une sorte de coloration californienne de l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est de lire... alors, je vous conseille évidemment l'exégèse qui vient de paraître chez Nouveau Millénaire, une sorte de journal, biographie, essai de Dick. Alors, dans l'exégèse, Dick parle du mercérisme, donc cette religion qu'il y a dans les moutons électriques. Et voilà ce qu'il dit au classeur 18, donc entrée d'août 1978, il dit le mercérisme, donc dans le roman, le mercérisme, c'est une religion basée sur l'empathie. Il dit, dans un premier temps, elle est réelle. Puis c'est de la foutaise. Puis ça redevient réel. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Dick ? En fait, c'est très clair dans le roman. Dans un premier temps, le mercérisme, c'est réel, c'est-à-dire que c'est une sorte d'envie spontanée d'aimer, un peu à la Kurt Vonnegut, vous voyez, il faut se rappeler quand même ce qui compte entre nous, bah c'est de s'aimer, d'être beau entre nous, une sorte de volonté spontanée d'être bon, de s'aimer les uns les autres sans la lourdeur du religieux, vous voyez, ça c'est le mercérisme de base. Puis le mercérisme bidon, comme dit Dick, bah c'est celui qui est mis en scène dans le roman, qui sert de pub pour Budweiser, quand même, dans le roman. La religion sert à la télé de réclame. Et à un moment dans le roman, le présentateur vedette, qui est un androïde dans le roman, dit le mercérisme est une escroquerie. Et le seul qui réagisse en étant content d'entendre ça, c'est Ned Beatty, le leader des androïdes. C'est très intéressant. Et dans un troisième temps, le mercérisme redevient réel. Donc c'est une espèce de dialectique, vous voyez. C'est comme quand vous dites « on est bien chez soi », vous voyez, on est bien chez soi, tiens, je suis bien chez moi. Alors vous êtes bien chez vous, puis un jour vous partez, donc vous niez, tout ça, c'était bidon en fait, vous faites le tour du monde, vous affrontez des serpents géants, vous traversez des mers, des tempêtes, des ouragans, et puis vous revenez chez vous, troisième, vous dites oh, « on est bien chez soi ». C'est vrai que la phrase « on est bien chez soi » de phase 3 n'a plus le même contenu que phase 1 quand vous étiez jamais sorti de chez vous. Le mercérisme, c'est la même chose. Dans un premier temps, oui, c'est vrai, on aimerait tous être bons. Pourquoi sauter une chose hein, c'est quand même... ça se tient. S'aimer les uns les autres, même si... Puis après, vous niez tout ça. Et après, vous revenez une espèce de compréhension zen de la chose. Oui, il faut ressentir de l'empathie pour les gens. Mais sans calcul, sans discipline, sans office religieux. C'est le mercérisme chez Dick. Le problème, c'est que le mercérisme, il ne satisfait personne. Les humains, on en fait un produit pour la télé, et les androïdes, ça ne leur parle pas, puisque ce sont la question de l'empathie. On ne va pas commencer à s'intéresser à un culte de quelque chose qui ne nous affecte pas, ne nous touche pas, c'est-à-dire un culte pour les humains. Donc, si on reprend tout ça, on se rend compte que, un, il est très difficile de distinguer les humains des androïdes, tout simplement parce que chacun empiète sur le terrain de l'autre. Les humains sont obligés de se rappeler via des machines qu'ils ont des sentiments, des émotions, etc. Et les machines elles-mêmes, notamment les derniers modèles Nexus 6, ont tendance à parfaitement imiter les émotions et les empathies. Et c'est là qu'on retrouve justement Rachel, un androïde qui, lui... en parallèle avec l'idiot, étale une espèce de trouble, de confusion, parce que Isidore, le simple d'esprit, a tendance à se faire avoir avec le test Voight-Kampff, puisqu'il le passe, ses résultats ressemblent à ceux d'un androïde, mais Rachel, elle, qui est un modèle performant d'androïde, le passe plutôt bien. Il faut plusieurs tests, il faut deux tests, en fait, dans le roman, pour savoir qu'elle est un androïde. Donc la confusion se fait, puisque certains humains ressemble à des androïdes, et certains androïdes ont tendance à aller vers l'humain. Ce qui nous amène, en gros, aux différents points de conclusion. Alors déjà, je reprends l'exégèse, le classeur du 21 octobre 1978, si ça vous intéresse. Dick parle de ce roman, et en parle en termes extrêmement, à la fois durs et précis. Voilà ce qu'il dit. Donc parlant du roman, fausse humeur, faux animaux, faux humains, faux sauveurs, faux souvenirs, fausse identité. Autrement dit, tout le roman qui repose quand même sur la volonté de distinguer le vrai du faux, le vivant de la machine, bref, d'établir une séparation franche, ce qu'on appelle en logique un principe de non-contradiction, soit on est l'un, soit on est l'autre, on ne peut pas être les deux à la fois. Bref, toute la structure du roman est invalidé par Dick, puisque selon lui, la problématique du roman, c'est le fou. C'est pas l'humain, c'est pas la machine, et on avait deux signaux, ce qu'on a évoqué, Isidore, qui est un humain, mais qui passe pour une machine, Rachel, qui est une machine, mais qui passe pour un humain. Autrement dit, tout ce que l'on croit être le fil conducteur et la narration du roman, et donc du film, est invalidé par Dick. Non, non, vous êtes trompé, la problématique du roman, c'est le faux. Deuxième entrée, Dick, parlant des androïdes, pour lesquels on a beaucoup d'émotions, de sympathie, depuis le film, c'est-à-dire depuis une œuvre qui n'est pas Philippe Dick. Pour Dick, les androïdes, revenant sur l'article qu'il a écrit en 1975, Dick dit en 1978 qu'ils sont toc, traduction française, qu'ils sont factices. Autrement dit, Dick nous prévient avant même le film qu'il n'y a absolument aucun charme, aucune attirance pour les androïdes, ce sont des leurres, ce sont des simulacres, et il faut s'en garder. C'est assez embêtant. La problématique, c'est le faux, et alors que toute la narration repose sur la traque des androïdes, Dick nous dit ne vous intéressez pas aux androïdes. Alors à quoi on doit s'intéresser quand on lit le roman ? Eh bien, Dick nous dit la chose suivante. C'est le mouton. C'est dit dès le titre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le mouton. C'est-à-dire le vivant. Ce qui compte, c'est le vivant, pour Dick. Mais le vivant n'est pas nécessairement organique. Et Dick nous prévient, aussi bien dans son article de 75 que dans son entrée 1278, que la distinction n'est pas à faire entre le vivant et le mécanique, mais dans une définition de ce que vous appelez être un être humain ou être une machine. Pour Dick, ce qui compte, c'est la pensée que l'on a de soi-même. Non pas la pensée abstraite, non pas la pensée de Descartes, non pas la faculté qui peut être imitée, mais le ressenti que vous avez de vous-même. Là aussi, c'est embêtant, parce que jusqu'alors, c'était un roman totalement cartésien. René Descartes l'avait écrit, il suffisait de mettre des guillotines, de mettre des guns, des sirènes de police. C'était le discours de la méthode, mais avec une petite narration. Ben non. Parce que pour Descartes, ce qui compte pour définir un être humain, c'est la pensée. Or, pour Dick, bon, je rappelle quand même, quitte à insister, que le détective s'appelle Descartes, ce qui compte, ce n'est pas la pensée, puisqu'elle peut être imitée. Donc la pensée, contrairement au modèle Descartes, chez Dick, elle est commune aux êtres humains et aux machines, mais pas aux moutons, et surtout pas aux moutons électriques. Donc la question, c'est de savoir quel est le propre de l'homme. C'est comme ça que la pose Dick en août 1978, quel est le propre de l'homme. Alors, déjà, dans le roman, il y a un petit passage, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Rachel, elle a une magnifique chouette, une superbe chouette que Descartes, le détective, prend pour un être vivant jusqu'à ce que très tardivement dans la scène, il se rend compte, ou on lui dit, parce qu'il ne s'en est pas rendu compte carrément, on lui dit que c'est un automate. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la symbolique classique qui remonte à l'Antiquité, la chouette, c'est la chouette d'Athéna, c'est le symbole de la pensée. Autrement dit, dans la scène où Rachel passe pour un être humain alors qu'elle est un automate, la pensée qui est le propre de l'homme dans notre tradition est donnée comme factice. La chouette est la pensée est factice, donc l'être humain ne peut pas se définir par rapport à quelque chose de factice. Donc il faut en revenir à ce que dit Dick dans l'article de 75, donc je vous donne la citation parce qu'elle est très bien. L'homme est à la machine ce que l'âme est à l'homme, une dimension supplémentaire en termes de hiérarchie fonctionnelle. Là, on pourrait se dire, ça y est, c'est réglé. On aurait le vivant. Dans le vivant, on aurait l'être humain supérieur au vivant. Et l'être humain serait pour la machine ce que Dieu est pour l'être humain. Donc on aurait une hiérarchie qui serait très claire. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, parce que Dick dit que vous avez tout simplement, c'est du bon sens, des humains qui ne se comportent pas humainement. vous avez des violences, des massacres, des crimes, etc., qui ne relèvent pas de l'humanité. Cela dit, entre parenthèses, les seuls actes inhumains qui sont perpétrés le sont toujours par des humains. Hein. C'est... Mais Descartes dit... lapsus intéressant, dit non, ça va pas, la définition de l'humain, ça marche pas, parce que nous sommes les seuls capables de nier notre propre définition. Les seuls qui peuvent pas être humains, ce sont les humains. Donc, à quoi s'en tenir ? Alors, aux apparences, non, ça marche pas. Tout le roman montre que l'apparence ne marche pas, ne fonctionne pas, mais ça, on le savait depuis Descartes, le philosophe. Alors, de quoi il faut parler ? Il faut parler d'empathie et d'émotion. Et Descartes dit que les émotions, Descartes, le philosophe, sont présentes chez les animaux et chez les humains. Et lui dit qu'on peut imaginer, il ne le dit pas là, mais il le dit quand même, on peut imaginer des automates qui seraient capables d'empathie. Mais dans ce cas, cette empathie, qu'est-ce qu'elle vaut ? Est-ce qu'elle relève de la programmation chez l'automate ? Ou est-ce qu'elle relève du sentiment spontané ? Est-ce que c'est une sorte de miracle de la conscience que des automates puissent, ou des androïdes, être capables d'empathie ? Ou est-ce que finalement ce serait décevant et l'empathie serait une programmation supplémentaire qu'on pourrait donner à un automate ? Ça commence à être compliqué, hein ? Il n'y a pas de critères pour distinguer les humains des automates. Et la réponse que donne Dick, c'est la suivante. Homme ou être humain sont des termes que nous devons comprendre et employer correctement. Ils qualifient une manière d'être au monde. Et là, ça devient très intéressant. Donc, homme, je résume, est un terme qu'on doit définir et comprendre correctement, homme au sens d'humain, il qualifie une manière d'être au monde. Autrement dit, tout vole en éclats. C'est-à-dire que homme, pour Dick, c'est quelque chose qui n'est pas donné, qui n'aurait aucun mérite, comme la vie. Vous voyez, bah, vous êtes vivant, bah, tout va pour vous. C'est pas votre faute, vous n'avez rien fait pour, vous êtes vivant. Vous êtes humain, bah, vous êtes humain. Non. L'humanité, c'est une qualité que l'on doit gagner. Autrement dit, la répartition finale de Dick, elle devient passionnante. Le mouton, c'est un être humain. Le mouton vivant, c'est un être humain. Si, par qualité que l'on gagne, on entend la possibilité qu'un homme risque 6 fois sa vie, quand même, il affronte 6 automates, pour l'amour d'un être vivant, il y a de l'humanité dans l'animal. Donc déjà, le mouton devient... au moins un objet d'amour légitime pour un être humain. Oui.
Le mouton, il n'a rien fait. C'est Descartes qui fait les formes. Qui fait oui. Les actions qui font de l'être humain.
Mais justement, le...
Est-ce que le mouton, il n'incarne pas un certain état de nature, en fait, dans le roman ? Parce que c'est dans un univers où tout est artificiel, toute l'écologie a été détruite et tout. Et le mouton vivant, l'animal, est-ce qu'il n'incarnerait pas cette nature un peu originelle, en fait, qui est perdue ?
Alors, pour répondre aux deux, oui, probablement, mais il incarne beaucoup plus. Il y a un truc très important dans le roman, c'est que c'est son deuxième mouton vivant. Il est question d'un premier mouton. Autrement dit, on passe simplement de la pure animalité, qui rappellerait un état de nature, à de l'analogie, mouton vivant que je veux, mouton de jadis, à du sentiment, quel est ce fameux premier mouton Descartes est quand même... L'argent, c'est pas pour sa femme, hein. C'est pour s'acheter un mouton. C'est quand même un énorme enjeu. Il va risquer 6 fois sa vie, j'insiste. Hein. Donc à la fin, ça quand même de... Alors, oui, là aussi, un truc intéressant, c'est que les androïdes dans le roman se font avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, très facilement. Hein. C'est pas comme dans le film où il les a très facilement, parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Enfin, il risque quand même 6 fois sa vie, Descartes, pour s'acheter un mouton. Donc le mouton, il... Et humain, de la mesure où il permet à un humain d'envisager son sacrifice, je ne parle même pas de la symbolique religieuse de l'agneau, hein. Vous savez que l'intérêt qu'avait Dick pour le Christ, qu'il soit fils de Dieu ou pas, hein, Christ en tant qu'homme réalisant ce qu'il y a le meilleur chez l'humain. Donc le mouton, c'est l'occasion pour un homme de faire montrer le meilleur de lui-même, capable de se sacrifier 6 fois. est capable d'aimer son mouton. À un moment, le mouton tombe en panne et l'épouse de Descartes veut le remplacer, mais à la fabrique, on lui dit non, il va s'en rendre compte. Donc c'est la possibilité pour le détective de faire advenir le meilleur de lui-même. En ce sens, le mouton participe au minimum de l'humanité de Descartes. Il fait redécouvrir son humanité. De la même manière que l'épouse de Descartes utilise la machine pour s'injecter des émotions, lui, il utilise un animal vivant et l'affection qu'il va avoir pour lui pour retrouver son humanité. Donc ça, c'est intéressant. D'autre part, donc ça, c'est pour le mouton, il est humain. Bon. Les collègues de Descartes, au poste de police, ne sont pas humains. C'est des tueurs. Ils sont présentés comme des tueurs. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ne sont que tueurs qui se font avoir. Non. Alors là, pour le coup, aucune empathie pour les automates qui vont, comment on dit, retirer. C'est aussi, c'est joli, on ne tue pas des automates, on les retire. Sachant que retire, ça veut dire exclure, et en anglais, ça veut dire mettre à la retraite. Vous avez tout un jeu sur les mots. Ben, bref, les collègues de Descartes, parce que ça commence que Descartes est le second choix du poste de police. Il y en a un qui s'est fait avoir avant lui, qui était donné comme meilleur tueur d'automates. Ils se font avoir parce qu'il leur manque une chose importante, qui est l'empathie. Donc les humains eux-mêmes ne sont pas toujours à la hauteur de leur propre humanité. Rappelez-vous ce que dit Dick, hein, l'humanité est quelque chose que l'on doit redéfinir et que l'on doit gagner. Ce n'est pas parce que vous êtes humain que vous êtes humain. Vous comprenez ? Il y a un état spontané immédiat qui fait de vous des êtres humains, et pas des chaises et des grenouilles, mais c'est quelque chose à gagner, à réaliser. C'est une pure potentialité que vous devez faire advenir ou pas. Et on peut être homme sans jamais devenir humain. Et Descartes, en fait, tout son cheminement, c'est de reconquérir sa propre humanité. Rachel, qui est un automate, est quand même à ça de l'humanité. Et la grande déception de Rachel d'être découverte, et c'est à ce moment-là qu'elle apprend, si ma mémoire est bonne, qu'elle est, elle l'apprend presque en direct, qu'elle est un automate. La déception, la tristesse de Rachel en fait quelqu'un de beaucoup plus humain que ceux qui lui font passer le test. Qui lui disent « Ah ben, désolé. Allez, on s'en va, on replie. » La tristesse, la solitude de Rachel est une solitude humaine. Qu'est-ce qui reste enfin ? Il reste... Ah oui, bien sûr. Cette très jolie phrase qui est tirée du roman, mais qui passe en douce, qu'on comprend, qu'on lit pas. Il faut vraiment... la relire et peut-être avoir un œil intéressé pour la retrouver. Cette phrase qui est tirée du roman où Dick dit « Ces trucs électriques », donc parlant plutôt des automates, pas des robots en général, il parle plutôt des automates, « Ces trucs électriques ont leur propre vie, si dérisoire soit-elle. » Autrement dit, le roman n'oppose pas du tout deux ordres qui seraient le vivant et la machine, n'oppose même pas au sein de ces deux ordres les robots et les automates, les animaux et les humains, mais simplement oppose la notion d'humanité à elle-même. Et c'est un peu comme le Mercer en trois temps, vous êtes humain, mais vous n'y avez aucun mérite, vous êtes spontanément, immédiatement humain, puis vous devez nier votre propre humanité pour la regagner dans un troisième temps de manière enrichie, de manière simple. Là où vous ne viviez jusqu'alors, vous commencez à exister pleinement, parce que vous n'êtes pas humain par la force des choses, mais parce que vous avez choisi de redevenir humain. Et voilà comment je finis mon cours à toute vitesse avec un quart d'heure et avance. Merci. Et le petit texte à la fin, là aussi c'est intéressant parce que on pourrait penser que bon d'accord, Descartes, détective, il y a trop d'occurrences, la source c'est vraiment René Descartes, j'en suis persuadé, mais juste une petite chose, le roman a été écrit en 66, alors qu'il écrivait ou qu'il avait fini Ubique. Or, Ubik, lui, est inspiré complètement de Leibniz, que Dick cite souvent dans les Égèses. Donc là aussi, il n'y a pas de coïncidence. Et Leibniz est un grand cartésien. Et si vous lisez l'exégèse, dans les philosophes français, il y a peu, le troisième qui apparaît, enfin, Leibniz est allemand, bien sûr, mais il est cartésien. Et le troisième philosophe, c'est Malebranche, qui était un disciple de Descartes aussi. Autrement dit, il y a vraiment des clés, outre le simple nom du détective et la réflexion sur la reconnaissance de l'automate et du vivant. C'est... Voilà, voilà. Des questions peut-être ? Ouais.
Vous dites qu'un automate peut être programmé pour avoir des émotions, admettons. Mais est-ce que nous, humains, on n'est pas aussi programmés par notre inconscient, par notre biologie, à avoir des émotions ? Parce que tout ça, c'est pas uniquement. Ça peut être des influx nerveux ou des hormones, etc.
Ouais, bien sûr, mais est-ce que le déterminisme à tout prix, on pourrait tout simplement régler le problème solder l'affaire avec l'ADN et puis c'est réglé. Est-ce que le déterminisme à tout prix, il change quoi que ce soit sur une même base, fondamentalement, on a des comportements différents, vous pouvez avoir des comportements différents, etc. Par contre, ce qu'il ne faut pas régler trop vite quand même, c'est la question de, on pourrait programmer des automates ou de robots avec des émotions. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. C'est trop abstrait pour moi. Ce c'est quoi des émotions ? Les émotions que vous allez ressentir aujourd'hui, là, maintenant, c'est par un travail très complexe que, jusqu'à preuve du contraire, seul l'esprit humain est capable, qui est l'analogie. Vous avez des émotions maintenant parce que, à toute vitesse, vous comparez la situation de maintenant à des situations que vous avez vécues jadis ou que vous n'avez pas vécu jadis, parce que c'est ça qui est merveilleux dans l'esprit humain, on peut comparer notre comportement de maintenant à des choses que vous auriez aimé faire, c'est quand même fou. Dans notre propre esprit, nous avons des fictions qui comptent tout autant que des souvenirs véritables. C'est l'esprit de l'escalier, on sort d'un entretien d'embauche qu'on a foiré complètement, puis on se le refait. Et le fait de le refaire, de refaire cette fiction, se donnant cette fois-ci le beau rôle, avec des phrases qui tuent à chaque fois, on éblouit tout le monde, trop tard, mais on éblouit, ça nous fait du bien. Pourquoi ça nous fait du bien, c'est bidon ? Ben, le fait que ce soit bidon, que ce soit des simulacres ou la réalité, importe peu. Ce qui compte, c'est la possibilité que l'on a de créer, par analogie, ces émotions. Et c'est pour ça que dire qu'on pourrait programmer des émotions chez un robot, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. À mon avis, ce n'est pas un enjeu gagné du tout. Si c'est faire des schémas simples, qui seraient simulation tristesse, simulation nostalgie, ouais, mais non. Ce qui est fascinant dans les émotions, c'est la capacité créatrice que l'on a dans les analogies de... C'est fascinant, vous pouvez parfaitement vous rappeler d'un souvenir joyeux. Souvenez-vous du Noël en famille il y a 15 ans, ça a été génial. Pour une fois qu'un Noël en famille se passe bien, celui-là vous en souvenez. C'était génial, super Noël. Seulement vous en souvenez 15 ans après, et entre deux il y a eu fâcherie, il y a eu des deuils, etc. Bah, votre souvenir joyeux va provoquer votre tristesse. Ça veut dire qu'il y a une capacité de création dans l'esprit humain qui ne serait pas possible, en tout cas pour l'instant, de créer chez la machine. Je veux bien qu'on crée des simulacres d'émotions, mais la capacité à s'engendrer des émotions, ça c'est pas gagné. Hein. C'est pour ça qu'en fait le vrai problème c'est celui-ci.
Dans ce cas-là, pour détecter un bruit, il faut réagir à l'IRM. Les clés d'émotion, elles sont pas immédiates. En discours face à un humain, on peut voir. L'algorithme pourrait détecter rapidement des micro-expressions, des choses qui lui donneraient les moyens de réagir aux émotions, mais dans un livre, il n'y a pas marqué « riez, soyez triste ».
Et donc ?
Et donc, du coup, sans ces clés et sans analogie, si l'Android n'a pas d'analogie, les situations qui sont racontées ne devraient pas déclencher l'émotion. Donc la lecture devrait être totalement inintéressante pour un Android.
Pour un Android, mais c'est valable chez nous. Vous le savez très bien. Vous savez très bien, en tant qu'ici, on est en famille, on peut le dire, que l'imaginaire va laisser totalement froid quantité de lecteurs qui sont pour autant de grands lecteurs. Vous avez des tas de gens pour qui la science-fiction, la fantasy, voire même le fantastique, sont des lectures insipides, voire même des pertes de temps. Et pourtant, ce sont de vrais lecteurs qui peuvent ressentir de l'émotion, je ne sais pas moi, à Proust ou...
Oui, mais la clé, là, ils peuvent ressentir des émotions devant d'autres livres, devant d'autres lectures.
Non, mais même à
mais justement, quand sauriez-vous qu'un Android... est un Android, si c'est par sa réaction à des livres, s'il ne réagit pas à tel livre parce que ça le laisse indifférent, puis il y a tout simplement des humains qui ne sont pas des lecteurs. Vous leur mettez n'importe quel livre, ils ne réagiraient pas.
Ils sont plus vraiment humains, c'est bon.
Oui, ça c'est pour ça. Oui.
Quelle est la différence entre l'humain qui mérite son humanité, comme on l'a décrit là dans ce cours, et le bon chrétien qui va au paradis? Parce que finalement, j'ai dans la description de dire que ça se mérite, que je veux dire, on est humain, certes, mais il faut l'être. J'ai eu l'impression que c'était un peu de décrire le cheminement religieux du...
Il n'est pas exclu, je dis que chacun le sait ici, mais c'est pas non plus la voie royale pour arriver au religieux. Kurt Vonnegut, ce qui fait la différence entre nous, humanistes et croyants, c'est que nous ferons le bien sans attendre et sans vouloir de récompense. En soi, aimez-vous les uns les autres, c'est pas con, hein. C'est pas parce que ça a été repris dans un contexte religieux que la phrase est dépourvue de sens. Aimer les autres est une phrase tout à fait normale sur laquelle vous pouvez bâtir une morale non religieuse, voire même tout simplement une éthique personnelle, hein. Ça mène pas forcément au comportement religieux.
Non, je ne dis pas que ça amène au religieux, mais finalement, je veux dire que cette démarche religieuse qui était avant, même finalement, tu lui as précédé, mais finalement, est assez proche. Finalement, on enlève l'habillage religieux et finalement, la volonté divine, enfin, tout ce qui est caractérisé le religieux, mais en fin de compte, je trouve énormément un commun, une sorte de continuité.
Ben, je crois pas. Justement, c'est une question d'apparence. Sur un même énoncé, on est bien chez soi, ou aimez-vous les uns les autres, vous pouvez avoir un comportement immédiat sans en rien attendre, un comportement réfléchi, un comportement qui vous satisfait à vous, un comportement qui vous satisfait à vous, mais dans l'attente d'une récompense, la vie après la mort, par exemple. Un même énoncé peut comporter des sens complètement différents. C'est le philosophe américain Putnam, qui était fan de Dick d'ailleurs, qui disait si vous prenez un manuscrit du Moyen-Âge et que vous lisez dans le manuscrit, un homme et son fils vont à la pêche. Nous, hommes du XXIe siècle, on va imaginer un moment de complicité entre le père et le fils, des chemises à carreaux, le camping-car, le feu à la fin, etc. Mais non, peut-être que dans le manuscrit, ça veut simplement dire deux malheureux qui, tous les jours, doivent trouver de quoi manger, parce que sinon ils meurent. C'est-à-dire qu'un même énoncé peut avoir des significations totalement différentes. C'est sûr que Dick et le Christ, c'est une longue histoire, hein, surtout à partir de 1974, mais ce livre a été écrit en 1966. Et je pense qu'il y a la place d'une humanité, à ce moment-là, pas nécessairement religieuse. L'image du religieux dans le roman, c'est l'image que vous en faites. En soi, c'est un pur énoncé. C'est ce que vous en faites qui a du sens. Et finalement, la question du religieux dans le roman, elle ne perturbe qu'un seul être, et le perturbe en l'amusant d'ailleurs, c'est Roy Batty, le leader des automates. C'est le seul qui réagit, ça le fait rire.
La question était un petit peu mal comprise parce que
dans
ma question, j'essayais pas de remettre le contexte religieux.
Non, mais de toute façon, votre question elle est pertinente du simple fait de Dick déjà, et sa révélation de 1974. Dick disait, je pense que le ressentait réellement, qu'il partageait une affinité, voire même une communauté avec les chrétiens archaïques, les chrétiens de Rome, pas les chrétiens de la religion catholique, mais les chrétiens romains dans la persécution. Mais il en parlait de manière paradoxalement a-religieuse, c'est-à-dire que dit dans l'exégèse, un homme, le Christ, qui se sacrifie pour le bien de tous, il est admirable. Von Gut, que j'arrête pas de citer, dit la même chose. Von Gut dit, peu importe qu'il soit fils de Dieu ou Dieu lui-même, ce qu'il a dit est recevable. Aimez-vous les uns les autres. Et justement, dans le roman, ce qui est intéressant, c'est que le « aimez-vous les uns les autres » ou « aime ton prochain », c'est quoi le prochain ? Est-ce que le prochain, c'est celui qui est proche, qui est donc simplement un être humain ? Ou est-ce que mon prochain, c'est mon lointain, c'est-à-dire quelqu'un pour lequel je vais faire effort d'aller, effort d'amour, un automate, ou simplement le type qui habite de l'autre côté de la Terre ou dans une autre société, c'est ça aussi qui est... Parce que aimer son prochain, c'est facile, hein. Moi, je me suis pas cassé la tête, hein. J'aime mon épouse, elle est là. Voilà. Non, l'enjeu, c'est aimer l'autre. Et on peut aimer l'autre, visiblement, selon le roman. Sachant que l'autre, certains automates sont probablement plus humains que l'humanité spontanée qui vous est conférée, et certains humains perdent en cours de route leur humanité. D'où les deux passerelles, l'idiot du côté de l'humain et Rachel du côté des automates. Rachel est pratiquement un humain, Isidore, le malheureux, est pratiquement. Il se fait choper à chaque fois par le test Voight-Kampf.
L'humain, c'est pas forcément la bonté aussi.
Pardon ?
Dans ce cas-là, on dit l'humain, c'est la bonté, c'est mes anecdotes, mais l'être humain, pas forcément être bon et généreux, il y a aussi l'amour, il y a aussi la. Pas la haine, qui est un sentiment aussi.
Oui, mais dans le roman, tout à fait, mais dans le roman, par contre, l'indifférence, c'est pas la haine, bien sûr, c'est même opposé à la haine, mais il est bien précisé que l'une des caractéristiques des automates, c'est qu'ils sont totalement indifférents au sort des automates. Donc, c'est pas par ce biais-là, dans le roman, me semble-t-il, hein, que. Dit que post-humanité, c'est vraiment par le souci de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est dans sa redéfinition de l'autre. L'autre, il est là ou il est là-bas. Il n'est pas forcément là-bas.
Voilà, voilà.
Mais c'est à lire, à relire, hein, parce que on est loin de... Le film, c'est une variation, mais comment dire en musique, le thème est là, mais c'est une variation, c'est pas le livre. Et il y a des facilités dans le film, comme l'histoire avec Rachel, qui facilite la narration, tandis que là, il n'y a même pas de quoi se raccrocher à du sentimental, justement, puisque c'est l'enjeu du roman. Rachel, une fois qu'elle est posée comme automate, elle disparaît de la narration. C'est un automate. Un automate déçu, qui fait beaucoup de peine, elle se croyait humaine, c'est un automate, donc c'est fini. Non, en fait, le vrai héros, c'est le mouton. Et c'est dit dès le début, c'est dit sur le titre. C'est ça qui est fascinant. Savoir s'il est électrique ou pas. Bon, c'est sûr que à Hollywood, c'est peut-être pas le moyen de lever des millions de dollars.